Bienvenue dans le podcast de Steve Aldeman, la littérature au 7e ciel.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce podcast est consacré à l'interview de Clarissa Rivière, une autrice de nouvelles et romans érotiques. À l'origine, cette interview était vidéo, ce qui s'entendra peut-être, mais Clarissa, n'appréciant pas trop son image, elle m'a demandé de ne la diffuser qu'en podcast. Bonne écoute.
Donc, je m'appelle Clarissa Rivière, je suis autrice et j'écris principalement des textes érotiques.
D'accord.
Et je suis parisienne.
D'accord.
Alors oui, je préfère séparer ma vie privée de ma vie d'écriture pour pas un peu tout mélanger, pour cloisonner un petit peu les choses, même s'il y a des confidences qui peuvent m'échapper sur les réseaux ou en discutant avec des amis. C'est pour ça que je ne vais pas trop raconter ma vie, entre guillemets.
Ce qui est normal. Mm. Ce qui peut complètement se comprendre, en particulier quand on écrit de l'érotisme. C'est juste logique, je suis moi-même anonyme, je ne vais pas te jeter la pierre, hein, loin de là. Alors, quand on a préparé l'interview, il y a une question que je t'ai posée, c'est est-ce que tu peux m'expliquer d'où vient l'origine de ce pseudonyme d'auteur, Clarissa Rivière?
Alors, je voulais écrire sous pseudo, pour la raison que l'on vient d'évoquer, de ne pas tout mélanger, et que ce soit mon jardin secret, à l'écart de ma vie privée, de ma vie familiale. Et donc, j'ai pensé d'abord au prénom de Claire, dont j'aime bien la musicalité, le côté limpide, lumineux. Puis c'était déjà très pris, alors j'ai cherché un dérivé de Claire, je suis allée voir Clarisse, ça m'évoquait un peu trop la religion, les Clarisses. Et je suis arrivée sur Clarissa, et c'est aussi le titre d'une nouvelle de Stefan Zweig, que j'aime beaucoup. Une D'accord. nouvelle inachevée, Clarissa. Et pour mon nom de famille, Rivière, je voulais un nom commun, pour ne pas avoir de soucis avec des noms existants. Un nom commun, et j'ai pensé à Rivière, parce que j'aime bien l'eau, le mouvement de l'eau, les différentes facettes de l'eau, le scintillement de l'océan. J'aime bien aussi les évocations d'humidité, que cela peut évoquer, en fait. Hein. Et puis, moi, j'ai pensé aussi à Histoire d'eau, qui est un peu un premier roman que j'ai lu, érotique que j'ai lu. C'est un petit peu fondateur, je pense, de mon imaginaire, notamment dans le BDSM. Donc ouais. Voilà un peu pour expliquer comment j'ai choisi mon pseudo.
D'accord. Une question de sensibilité.
Voilà, j'aimais bien les connotations, la clarté de Clarissa, entre guillemets. Et puis rivière, voilà, l'humidité, l'eau, qui est à la fois torrent, mais à la fois aussi très, très calme. Oui, c'est mieux comme ça.
D'accord. Alors j'ai envie de te poser une question tout de suite, parce que tu viens de l'évoquer, ce roman-là, Histoire d'eau. Il se trouve que c'est également le premier que j'ai lu dans ce domaine-là. Clairement, il a influencé beaucoup de gens. Frank Spengler me disait que c'est un roman qui a été édité, enfin c'était plus qu'un best-seller, hein. Aujourd'hui il me disait en version francophone c'est 300 000 exemplaires vendus et on est largement au-delà du million dans le monde entier. Moi je l'ai découvert à 16 ans, je l'ai lu, j'avais 16 ans. Alors évidemment à 16 ans on n'a pas la même lecture que quand on le relit plus tard. À quel âge tu l'as découvert toi ce roman ?
Je l'ai découvert très jeune parce que j'ai fouillé intégralement la bibliothèque des parents. Ils n'étaient pas là, ils étaient absents, et dans ces cas-là, je regardais. Et j'ai regardé derrière, en fait, les livres. J'avais bien vu qu'il y avait des livres cachés derrière, et notamment Histoire d'eau, que j'ai lu très jeune, peut-être en cinquième. Donc, ouais. Je n'ai pas tout compris. Hein. Je n'ai pas cherché à comprendre en cherchant dans le dictionnaire. Mais je sais que ça a été une claque, et ça m'a à la fois choquée, mais beaucoup excitée aussi. Donc je l'ai lu, j'ai énormément pensé. Ensuite, j'ai lu les autres livres qui étaient aussi cachés. Je me souviens de L'amande d'Lady Chatterley, que j'ai trouvé presque fade à côté. Donc je suis restée, voilà, je suis entrée dans la littérature érotique avec Histoire d'eau. Boum, la claque. C'était ouais. à la fois très fort, très bien écrit, assez extrême. Et ensuite, je n'ai pas cherché à renouveler l'expérience de sitôt, mais je suis revenue un peu plus tard à la littérature érotique. Oui.
D'accord. Et effectivement, on a presque la même expérience, c'est drôle d'ailleurs, parce que moi je l'ai trouvé aussi dans la bibliothèque de mes parents, sauf que je pense qu'ils avaient oublié de le planquer, parce qu'il n'était pas spécialement caché. Et effectivement, moi j'ai lu ça, j'étais pas en cinquième, hein, j'avais 16 ans, mais effectivement, quand on lit ça jeune, on n'a pas les armes pour comprendre tout ce qui se joue dans ce livre-là. Mmh. Mais c'est un livre qui m'a beaucoup marqué aussi. Bah, c'est le premier article que j'ai écrit, c'est sur Histoire d'eau. Mais après, m'être bien renseigné sur qui l'avait écrit, dans quelles circonstances, pourquoi elle avait écrit ça. Mmh. Et c'est vrai que moi, à 16 ans... les pulsions que pouvait me donner, au-delà de l'excitation dont tu parlais tout à l'heure, les pulsions, c'était « il faut la sauver !» Alors qu'elle n'a clairement pas besoin d'être sauvée, mais ça, on ne s'en rend pas compte quand on est jeune. Quoi.
J'avais compris qu'elle était consentante, j'avais compris qu'elle était d'accord en fait, pour cette vie-là, et qu'elle le faisait par amour, qu'elle était amoureuse. Mais ce qui était difficile dans le livre, c'est qu'elle a abandonné par son premier amant, remise entre les mains d'un autre amant, qui l'abandonnera aussi. Mmh. Et là, pour moi, c'était trop. Un tel sacrifice, un tel don de soi, et finalement, ces hommes qui la délaissent à la fin.
Oui, ouais, clairement. Et puis, de mémoire, Sir Stephen, c'est une crapule, en fait, à la fin. Il me semble qu'il l'abandonne parce qu'il n'a pas le choix. Il est recherché par la police, de mémoire.
Alors j'avoue ne pas me souvenir de la fin. Je me souviens que ça se passe mal, il la laisse au château, il l'abandonne, mais je ne me souviens pas pourquoi il la délaisse. Ouais.
Alors je l'ai relu deux, trois fois, moi j'avoue, effectivement j'ai creusé, puis notamment pour écrire l'article. Alors, une des questions que j'avais très envie de te poser, c'est pourquoi tu en arrives à la littérature érotique finalement ? Qu'est-ce qui te motive à écrire de l'érotisme ? Parce que c'est surtout ça que tu as écrit, même si tu as écrit autre chose, mais on va en reparler tout à l'heure.
Alors l'érotisme m'a toujours beaucoup intéressée. J'ai toujours eu cette curiosité pour l'érotisme, pour tout ce qui a trait au sexe, etc. Enfin, j'ai toujours eu énormément de fantasmes qui tournaient dans mes pensées, qui me venaient spontanément, beaucoup de désirs aussi, tout un flux comme ça qui me traversait en permanence. Et... Donc j'ai lu effectivement pas mal de livres érotiques. Et quand j'ai de nouveau eu du temps à moi, j'ai eu envie d'écrire et j'ai écrit spontanément donc, sur le désir, sur le plaisir. J'ai écrit un peu des fantasmes tout en les intégrant des histoires. C'est ça qui me plaisait, qui m'amusait le plus en fait. J'étais inspirée, j'avais plein d'idées. Ça foisonnait un peu partout et j'avais envie d'écrire sur ce thème-là aussi, oui. même si d'autres thèmes m'intéressent.
D'accord. C'était pas forcément enfin, je cherche à comprendre, parce que je trouve ça intéressant de voir quels sont les ressorts de l'écriture, mais c'était pas forcément l'envie d'écrire au début, c'est l'envie quelque part de coucher sur le papier un intérêt pour la sensualité et la sexualité d'une façon générale, qui t'a amené à écrire, ou c'est parce que tu avais envie d'écrire que ce sujet-là t'intéressait et donc que tu as écrit sur ce sujet-là ?
Alors, j'ai toujours beaucoup aimé écrire. J'ai tenu mon journal intime pendant des années, très tard. J'ai toujours aimé écrire, donc ce qui m'arrivait, ce que je ressentais. Peut-être parce que j'étais fille unique, assez solitaire, donc voilà, cher journal. Et puis je me suis mise à écrire aussi à des amis. Je me suis mise à écrire des histoires de science-fiction, des histoires fantastiques. Et puis... les histoires érotiques me sont venues d'une période de ma vie où j'étais amoureuse, où j'avais du désir. Et ça, c'est vrai que mon imaginaire érotique s'est un peu enflammé, emballé au contact de ce ressenti que j'avais. Et c'est là où j'ai commencé à écrire des histoires érotiques. Je ne me suis plus jamais arrêtée.
D'accord.
Mais j'ai toujours aimé écrire, ouais, toujours. Toute petite, déjà, j'écrivais des histoires. Ouais. J'ai des tas de cahiers dans mes tiroirs.
Alors, Clarissa Rivière, c'est aussi une chaîne YouTube. Est-ce que tu veux en parler un petit peu ? Parce que moi, je l'ai parcouru. J'y ai vu pas mal de lectures érotiques. Et ça donne l'impression que ça te plaît aussi de les raconter de cette façon-là, ces histoires.
Alors, je me considère avant tout comme blogueuse. J'adore tenir un blog, même si c'est plus trop à la mode à présent. J'ai un blog un petit peu fourre-tout, je raconte des lectures, je fais des chroniques de spectacles, d'expositions, je raconte des soirées, je raconte des histoires aussi. Le côté YouTube est moins naturel pour moi, je l'ai pris un peu comme un jeu, comme un défi aussi. parce que je ne suis pas forcément très à l'aise devant la caméra. D'ailleurs, mes extraits sur YouTube sont assez statiques, figés. Je ne suis pas une actrice, une bête de scène. Donc, ce n'est pas une réussite pour moi, mais j'aime bien de temps en temps me prêter à l'exercice.
D'accord.
De lire un extrait. Et donc, je me force un peu, mais à la fois, ça m'amuse de me mettre en scène. C'est peut-être mon côté exhibe, un peu hein, lié au partage de photographies, donc au partage de films. Mais je dirais que sur YouTube, je ne suis pas très active. Ça reste assez confidentiel, d'ailleurs. Ouais. Je préfère le support de l'écrit, nettement.
D'accord.
Alors, j'ai toujours été très timide, en fait. J'ai eu une adolescence difficile, enfin je ne suis pas là pour en faire ma psychanalyse.
Oui, non, c'est pas le but.
J'ai toujours été extrêmement timide, avec la crainte du regard des autres, ça c'est vraiment un poison. Bon. Donc je pense que ce qui se traduit à l'écran, c'est ma timidité qui ressort.
Ouais.
Je lutte contre ma timidité, bon, je vais dans des soirées, quand je rencontre des gens, voilà, dans des événements. Donc là ça se passe très bien, c'est spontané. À l'écrit, pas de problème, je suis derrière mon écran. Alors là, je peux écrire les pires horreurs, les pratiques les plus extrêmes, ça ne me pose pas de problème. Mais j'avoue que devant la caméra, je bloque. Et même devant un appareil photo, je bloque, je suis tout de suite raide, figée. Je pense que c'est une certaine gêne et une timidité qui ressort. Ouais.
Ce qui me fait rebondir sur le fait que sur Facebook, on voit bien que tu sors, tu ne le caches pas. Et là, au contraire, on te sent très à l'aise. Il n'y a pas de souci.
C'est comme à la base, je tenais un blog. Donc, j'ai été contactée par des soirées, Démonia, notamment la première. Et ils m'ont invitée en tant que blogueuse à leur soirée pour que je puisse ensuite faire un petit article sur mon blog. Et en fait, ça m'a tellement plu. J'ai cherché ensuite à participer à toutes les soirées du milieu fétiche. J'ai adoré l'esthétique, les tenues, l'ambiance, la musique, danser. J'ai vraiment beaucoup aimé les jeux aussi qui se déroulaient, et puis les gens tous bienveillants avec leurs différents rôles. Donc j'ai cherché à participer à d'autres soirées, j'aime bien les raconter, etc. Et c'est vrai qu'il y a un côté, on retrouve les plaisirs de l'enfance, de se costumer un peu. Donc là, il y a le plaisir de choisir une tenue, de choisir des accessoires. Donc souvent, il y a des photographes. Donc c'est vrai qu'il y a un petit côté exhibe qui va à l'encontre de mon côté timide, sans doute. C'est pour ça qu'il y a des photos parfois qui traînent.
D'accord. Et alors, dans ce que tu racontes justement sur ces soirées, il y a quelque chose qui m'interpelle, parce que moi j'ai visité une paire de fois Crier Chuchotement, il y a longtemps, et ce qui m'a marqué tout de suite, ce qui fait que c'en est devenu quasiment un personnage à part entière de mon roman, c'est qu'il y a un souffle de liberté dans ces soirées qui est assez impressionnant, ce qui fait qu'effectivement on peut être soi-même, on n'a plus besoin de montrer un masque comme certaines personnes montrent un masque à la société, et là on peut être vraiment qui on veut et s'inventer un personnage, et ça m'avait beaucoup marqué, j'avais trouvé ça extrêmement rafraîchissant, quelque part très sain, quoi.
Oui, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les soirées, c'est un petit peu comme Alice au Pays des Merveilles, en fait, on franchit la porte de la soirée, on rentre dans un autre univers. Et les règles de la société, les règles de la bienséance ne s'appliquent plus. On est dans un espace de liberté et dans le respect du consentement, de la sécurité des personnes, bien sûr, toujours. Mais on peut effectivement s'amuser, s'aborder en toute liberté. Et là, c'est quelque chose qui est assez enivrant et qui me plaît énormément. Ouais.
Et alors, évidemment, la question que je me pose, moi, en tant qu'auteur, c'est est-ce que ça a eu un impact, cette capacité à sortir, cette découverte, comme tu disais, avec la première soirée de Monia, est-ce que ça a eu un impact sur ta façon d'écrire, est-ce que sur ce que tu as écrit?
Oui, le fait de fréquenter cette soirée a eu un gros impact, parce qu'avant, j'écrivais plutôt des nouvelles érotiques un petit peu classiques, la rencontre entre des inconnus, etc. Quand j'ai commencé à fréquenter ces soirées, à connaître le milieu BDSM, j'ai surtout écrit des histoires qui se déroulent dans l'univers BDSM.
Ce que tu faisais pas avant.
J'étais tellement sous le charme de l'ambiance, sous le charme de l'esthétisme. Et puis aussi, je trouve que les relations sont très fortes dans le milieu BDSM. Les relations de domination, de soumission, je les trouve belles. Elles me parlent, elles me troublent. Je trouve qu'il y a un engagement qui est très fort. Les gens vont très loin par soumission et... J'étais touchée par ce que j'ai pu voir, ce que j'ai ressenti. Et oui, donc j'ai écrit de façon intense dans cet univers-là. Ouais.
Parce que ça t'a impacté.
Ça m'a beaucoup plu, oui. Ouais. Ouais.
D'accord. Et ça, tu n'en écrivais pas avant?
Alors avant, si, j'avais déjà un imaginaire, comme j'avais lu Histoire d'eau, et puis d'autres aussi ensuite. J'avais déjà cet imaginaire BDSM qui me plaisait, en théorie. mais que j'imaginais violent, entre guillemets, sur la base d'infliger la souffrance, de supporter la douleur. Enfin, je pensais que ce serait très engageant à ce niveau-là, que c'était assez violent, et moi je suis plutôt douce, je pensais que ça ne me conviendrait pas. Mais en fait, finalement, en fréquentant ce milieu, je vois qu'il y a la palette, l'éventail des possibilités est immense, et tout le monde y a sa place, quoi. Il n'y a pas un BDSM normé comme ci, comme ça. On peut s'amuser de la façon qu'on le souhaite. Ouais.
Ce que tu viens de dire m'inspire beaucoup, parce que m'inspire des questions, parce que moi, j'ai découvert donc la littérature érotique, pareil, avec, comme toi, avec Histoire d'eau. Et puis, j'en ai lu d'autres ensuite. Et effectivement, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête, mais pendant des années, j'en ai pas forcément relu. Et puis, quand en 2007, je commence à écrire, j'avais déjà eu des prémices, j'avais envie un petit peu d'écrire, mais sans plus, ça avait des essais avortés. Je veux écrire de la science-fiction, que j'ai écrit depuis. Mais à ce moment-là, je n'ai pas d'expérience d'écriture et je me dis la science-fiction, ça va être trop compliqué à écrire. Et donc, je me dis, je vais écrire une romance. Je voulais écrire avant tout une histoire d'amour, ce que j'ai écrit. Mais effectivement, je ne me voyais pas écrire du Harlequin ou une histoire à l'eau de rose. Et donc, je me dis, je vais écrire une histoire qui me correspondait à ma nature, on va dire. Hein. Je préférais écrire du BDSM. Enfin, une histoire d'amour dans un cadre BDSM. Et donc, je me dis, pour pas écrire la même chose que tout le monde, je pensais avoir une idée originale, mais j'en étais pas sûr, je me suis dit, je vais lire déjà ce qui se fait. Et donc j'ai lu comme ça, j'ai relu Histoire d'eau, j'ai lu Le lien de Vanessa Duriez, j'ai lu Le bel échange de Claudine Galler, et puis j'en ai lu comme ça tout un certain nombre qui ont notamment été édités, surtout entre début 90 et fin 2010. Oui. Et là, je découvre surtout des romans écrits par des femmes.
Oui, il n'y a quasiment que des romans écrits par des femmes.
Quasiment, en tout cas, à cette époque-là. Ou alors, il y en a écrits par des hommes, mais pour le coup, c'est moins réaliste. On peut citer Sparbeck, mais Sparbeck, bon, c'est plus jouissif, pornographique. On n'est pas vraiment dans une description plus réaliste. Et puis, c'est pas aussi, il n'y a pas autant de sensibilité. On sent que c'est plus du roman de gare, alors qu'on n'a pas affaire à un roman de gare quand on lit Dolorosa Soror, par exemple. Mais surtout, je découvre autre chose qui, moi, ne me plaît pas, même si je trouve que ces livres sont très bien écrits, c'est que les personnages masculins, là-dedans, ils sont très noirs. Ils sont brutaux, parfois ils sont quand même très égoïstes, les histoires finissent mal, enfin, Gérard de Dolorosa Soror, sans spoiler, ça se finit pas très très bien. Le lien, même si ça se finit bien, quand on lit la suite, on sent bien que Vanessa Duriez, elle a évolué. Et il y a tout un tas de romans comme ça, enfin, dans Le bel échange, on parle quand même de sang. Puis voilà, on sent un univers avec une sensibilité, une sexualité attrayante. Les relations déesses en particulier sont quand même, domination, soumission, ont quelque chose que tu as bien décrit tout à l'heure. Il y a un côté qui interpelle, surtout si on a la sensibilité qui va avec. Mais quelque part, des points négatifs des histoires qui finissent mal globalement, qui me déplaisent. Et moi, ce n'est pas ce que je voulais écrire. Et tout de suite, même si je n'ai pas lu ce que tu as écrit, tout de suite, ce dont on me parle, quand on me parle de tes écrits, on me dit, voilà, c'est pas du tout, on n'est pas dans la même chose. J'aurais envie de dire, on est plus dans, et tu vas me corriger si je me trompe, on est plus dans un érotisme jouissif. On est dans quelque chose, dans tes écrits, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus positif, quelque part, une mise en scène d'une sexualité et des relations BDSM qui est à la fois plus plaisante. Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux me dire de ça?
Alors, c'est vrai que ça peut être paradoxal, parce que quand je lis, j'aime bien lire des livres assez extrêmes, où ça va très loin, c'est bien dark. Mais quand j'écris, j'ai surtout envie d'écrire le désir et d'écrire le plaisir. Et par exemple, dans mon dernier roman, ça se passe pendant les vacances, c'est très, très ensoleillé.
Le roman qui s'appelle ?
Donc, Le village des soumises. Donc, c'est plutôt joyeux. Et c'est vrai que on m'a dit que j'aimais les garçons, ça se voyait, que j'ai beaucoup d'indulgence et de tendresse vis-à-vis des garçons. J'ai eu sans doute la chance, contrairement à d'autres, malheureusement, j'ai pas souffert des hommes. Donc c'est vrai que j'ai mis plusieurs archétypes de dominants dans ce roman, mais il n'y a pas le dominant hyper méchant comme on peut peut-être le trouver dans d'autres ouvrages. Donc là, j'ai pris un dominant un peu romantique, il y en a un autre qui est plutôt joueur. Et finalement, même celui qui est le plus manipulateur, il est quelque part, il est aussi assez attachant. C'est vrai que j'ai pas mis en scène des personnages sombres, dark, et j'ai voulu quelque chose de distrayant. C'est un livre qui se passe pendant des vacances. Tout le monde est là pour s'amuser, s'ébattre. Bon, il y a quand même un fil rouge, il y a quand même un petit peu de drame qui se passe. Mais entre les personnages, ça se passe bien et c'est sur la base du désir. Même bon, si parfois il peut y avoir des choses un petit peu engagées quand même.
D'accord. Mmh.
Oui, ça s'est fait comme ça. Je n'ai pas forcément réfléchi. Je ne me suis pas dit, je vais écrire des histoires joyeuses ou je vais écrire des histoires dark. Ça s'est fait un petit peu naturellement, je dirais.
Ouais, ça correspond à ta sensibilité, j'ai envie de dire, non, peut-être.
Oui, je pense, ouais. Oui, je pense. D'accord. Que c'est comme ça.
Parce que c'est compliqué d'écrire quelque chose, enfin, pour ma part, c'est comme ça que je le ressens, c'est compliqué d'écrire quelque chose qui ne ressemble pas.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, je pense qu'on met forcément un peu de soi-même dans nos personnages. C'est parfois une question que j'ai des lecteurs, des lectrices. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'est la réalité? Alors non, c'est des fantasmes, c'est inventé. Par contre, le ressenti de certains personnages, il peut être tout à fait réel. Dans Le Village des Soumises, oui, il y a clairement un personnage, c'est un petit peu moi. Les personnages, quand ils se retrouvent tiraillés entre des aspirations romantiques, des aspirations de fidélité, et puis leurs pulsions sexuelles, leurs désirs, ça c'est quelque chose que je peux ressentir moi aussi, c'est en fait, d'être écartelé entre des envies contradictoires. Mmh. Ça c'est des choses que j'aime bien jouer avec ces paradoxes-là, et oui c'est quelque chose qui vient de moi, et je pense que chaque auteur, chaque autrice met pas mal d'elle-même ou d'eux-mêmes dans ses romans. Oui.
Ce qui est, à mon sens, hein, maintenant que je commence à avoir un peu d'expérience l'écriture, ce qui est à mon sens le signe d'une écriture de qualité, c'est compliqué d'écrire autre chose. Moi, j'écris Ma Soumise, mon amour, c'est l'histoire d'un personnage, d'un jeune homme dominant. Autant on peut avoir des pulsions variées, autant on a quand même une dominante, j'ai envie de dire, une sensibilité dominante qui va jouer sur ce qu'on peut écrire plus que d'autres. Moi, il y a une chose que je ne saurais pas faire, c'est écrire à la place d'une femme, par exemple. Parce qu'inventer quelque chose qui n'est pas nous, je trouve ça compliqué. Est-ce que tu devais réécrire à la place d'un homme, par exemple, ou écrire un personnage, ou d'écrire une histoire qui soit l'histoire d'un homme, par exemple? Est-ce que ça, c'est alors, quelque chose que tu te sentirais de faire?
De mon côté, j'écris toujours avec différents points de vue, c'est ce qui me plaît. J'aime pas écrire à la première personne, parce que c'est trop réducteur, donc j'aime bien me couler dans la peau de tous mes personnages. Et donc, effectivement, y compris des hommes. Et les hommes, ça peut être des hommes soumis. J'ai fait un roman plutôt sur la domination féminine, Immersion. C'est plutôt une romance, une histoire d'amour entre une dominatrice et son soumis. Et dans Le Village des Soumises, au contraire, c'est plutôt des dominants avec des femmes soumises. Et je me coule un peu dans la peau de chacun et je fais parler un petit peu chacun. Ouais. Donc non, ça me plaît d'essayer d'avoir le point de vue masculin sur la chose.
D'accord.
J'essaye, hein, je ne sais pas si je réussis, hein, mais j'aime bien. Ouais.
On va en parler tout à l'heure, la réussite de l'autrice, mais ça c'est aussi une autre façon, c'est aussi le plaisir de l'auteur de vivre d'autres vies à travers ses écrits. Enfin, moi je le vis comme ça aussi, quand j'écris, j'aime bien, quelque part c'est une façon de vivre autre chose que notre vie quotidienne, quoi. Est-ce que toi c'est quelque chose qui te parle aussi, ce que j'aime dire?
Oui. Bon, déjà, il y a la lecture qui est un formidable moyen d'évasion et de connaissance du monde et de l'histoire par la lecture. Mais l'écriture aussi. Moi, j'écris par plaisir personnellement. Donc, je ne cherche pas forcément à suivre des cahiers des charges particuliers. Donc, chaque fois, j'écris sur des fantasmes que je n'oserais pas réaliser. Fantasmes de pluralité. Je n'oserais pas les réaliser, moi, parce que c'est tout simplement, je n'ai pas l'occasion, ça ne se prête pas, et puis bon, voilà, ce n'est pas forcément possible. Mais par contre, en écriture, tout est possible, et on peut y aller franco, sans limite. Donc oui, effectivement, ouais. Nos personnages, on les libère, hein, et ils vivent ce qu'on aimerait peut-être vivre nous, mais on n'ose pas ou on n'a pas l'occasion. Ouais.
Et puis il y a une partie fantasme, on peut avoir des fantasmes qu'on n'a pas forcément envie de réaliser, mais qui pourtant sont très efficaces sur notre libido.
Voilà, oui, c'est vrai qu'il y a différentes sortes de fantasmes. Il y a les fantasmes qu'on a envie de réaliser et les fantasmes qu'on ne veut surtout pas réaliser, mais qui sont très excitants. Et c'est vrai que quand on écrit, on peut les mettre tous dans nos histoires et les emballer avec des rubans, avec une intrigue, et les glisser comme ça, un petit peu partout dans notre intrigue. Ouais.
Je rebondis sur ce que tu m'as dit tout à l'heure. A priori, enfin, je l'ai interprété comme ça, mais tu n'écris pas à la commande. C'est-à-dire tu écris ce qui te plaît, mais pas forcément à la commande. Et ça correspond à une question que je voulais te poser. Alors déjà, je vais te laisser répondre à cette question-là.
Alors, ça dépend de ce qu'on appelle à la commande. Au début, j'écrivais pour le plaisir sur mon blog. Je postais des petits textes. Et ensuite, je me suis prêtée au jeu des appels à textes, notamment la maison d'édition La Musardine, qui lançait régulièrement des appels à textes. Oser 20 histoires de fantasmes féminins, oser 20 histoires BDSM, etc. Et donc, on avait un temps imparti pour 2 mois, par exemple, pour leur envoyer un texte de 15 000 signes. Et ensuite, ils sélectionnaient 20 textes pour leur recueil. Donc là, pendant quelques années, j'ai participé avec beaucoup de joie à ces défis d'écriture. Donc le thème nous était imposé, finalement, mais on choisissait d'y participer ou pas. Et ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, c'est ensuite que j'ai eu envie d'écrire des récits plus longs et de me lancer dans l'écriture de romans. D'abord avec une amie, et puis après en solo.
D'accord. Et effectivement, ça a bien marché avec La Musardine, parce que tu en as sorti quand même un certain nombre. Enfin, j'ai vu qu'a priori, on va sur ton blog notamment, tu en as écrit pas mal des nouvelles. C'est quelque chose qui te plaisait bien, quoi.
Oui, alors j'aime énormément écrire des nouvelles. Il y a le côté rythmé, il y a le côté court aussi. C'est vrai qu'on enchaîne, on écrit une nouvelle d'une traite, en fait. Ça me plaît énormément. Donc, j'ai pas compté, peut-être une trentaine ou une quarantaine de nouvelles. Sont parues, la dernière dans le recueil Immoral, il n'y a pas longtemps. C'est extrêmement énergisant, c'est motivant. Et puis, j'avais d'autres amis aussi qui participaient, on s'encourageait mutuellement. Donc, c'est vrai que ça a été toute une période qui m'a beaucoup plu, l'écriture de nouvelles. Alors que l'écriture de romans, c'est plus long, c'est un travail de longue haleine. Et puis, on est seul. Il n'y a pas l'émulation des autres comme on l'a dans un recueil. Ouais.
Oui, parce qu'en fait, les personnes avec qui tu écrivais, bon, c'est ce que je viens de comprendre, qui répondaient aux appels à textes de La Musardine notamment, parce qu'ils en ont publié pas mal de tes nouvelles, c'est des gens que tu connaissais, qu'on peut peut-être citer, je ne sais pas.
Au début, je ne les connaissais pas. Et puis très rapidement, on s'est retrouvés sur Facebook, notamment, on a discuté sur les réseaux sociaux et on s'est connus. Il y avait Juliane de C, Julie de Russie, il y avait Marissa Rachel, effectivement, Octavie Delvaux, qui a publié énormément de nouvelles et qui est devenue une grande romancière, Katia, Miskat. Donc c'est vrai qu'on était tout un groupe de copines et l'écriture, c'est très solitaire. Et ce qui m'a plu, c'est que régulièrement, La Musardine organisait des événements, des dédicaces, etc. Et c'était l'occasion de se retrouver, de se rencontrer dans la librairie. Donc, on est devenus amis. Et puis, cela m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, effectivement, je n'ai pas envie de rester toute seule tout le temps devant mon ordinateur. Donc, j'ai participé aux ateliers d'écriture de Flore Chéri. J'ai participé à des lectures publiques, au Salon de la littérature érotique aussi, qui a lieu tous les ans. Donc c'est autant d'occasions de sortir, tout en restant dans le milieu littéraire, le milieu de l'écriture érotique, mais de rencontrer les auteurs et de découvrir aussi leurs livres. Donc ça, c'est vrai, voilà, c'est toujours cette tentation de rester seul pour écrire, parce qu'on a besoin de se concentrer, on a besoin de ce temps à soi. Mais ce besoin aussi de sortir, s'aérer la tête, alors pour moi ça, c'est aussi les soirées qui m'inspirent beaucoup d'histoires, et puis de rencontrer d'autres auteurs et les maisons d'édition et de participer à leurs événements. Ouais. Ça, c'est essentiel, je pense, à mon équilibre.
Et donc, je rebondis parce que toutes les personnes que tu viens de me citer sont encore des femmes.
Oui.
Il n'y a pas d'hommes là-dedans.
Il y a très peu d'hommes. Moi, je fréquente essentiellement des autrices, je connais essentiellement des autrices. D'ailleurs, le dernier recueil qui est paru à La Musardine, Immoral, on est uniquement entre filles.
Et c'est volontaire de la part de La Musardine, ou il se trouve que ce sont des femmes qui ont répondu aux appels à textes, ou alors les textes de qualité ne venaient que de femmes.
Pour ce dernier recueil qui s'appelle Immoral, c'était volontaire de la part de La Musardine, mais que des plumes féminines. Mais pour les autres recueils, non, il y a aussi des hommes qui ont participé. Je pense à Guillaume Perrotte, il y a aussi Daniel Aiguen. Donc, il y a également des auteurs masculins sur le dossier.
D'accord.
Mais peut-être moins. On en avait réfléchi. Je pense que nous, les filles, enfin, on aborde la sexualité par l'écrit. Les livres, Anaïs Nin, Régine Desforges, et puis d'autres. On aime beaucoup le support de l'écrit. Et il me semble que les garçons découvrent l'érotisme à travers les photos et les films, la pornographie. On n'a peut-être pas la même façon d'aborder, de démarrer en fait notre sexualité. On n'a pas les mêmes supports. Enfin, au moins dans ma génération. Peut-être que les jeunes maintenant, ils démarrent tous avec l'image et avec les films. Mais en tout cas, par des filles ont commencé en lisant en fait. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de filles qui écrivent. Bon, c'est une explication tout à fait personnelle, hein, je ne sais pas.
Frank Spengler m'en a donné une autre quand je l'ai interviewé. Il me disait que il y a une sensibilité. Enfin, il me disait, pour faire simple, hein, pour résumer, il en parle mieux lui-même, l'interview sortira le 7 mars, mais il me disait que grosso modo, les hommes se concentrent sur l'action. Et les femmes ont tendance à plus décrire leurs sensations, leurs sentiments qui vont avec, la raison pour laquelle il se passe telle ou telle chose, même si effectivement, au bout d'un moment, on rentre quand même dans la description de ce qui se passe. Mais c'est habillé de choses plus agréables à lire, grosso modo.
Et oui, effectivement. Ouais, effectivement, ils sont peut-être plus directs. Et,
Et il me disait que ça correspondait, on peut parler d'Sparbeck parce que je connais que lui, hein, il y en a sûrement plein d'autres, mais grosso modo, il disait que ça correspondait à des lectures masturbatoires plus que pour d'autres écrits, notamment d'écrits de femmes, qui étaient plus dans une sensibilité en fait. Hein. Et moi, c'est ce que j'ai retrouvé dans les livres que j'ai écrits, parce qu'effectivement, même si un certain côté de ces écrits-là, les livres que j'ai cités tout à l'heure, il y en a eu d'autres, Le Bel Échange de Claudine Gadea, j'ai lu Carnet d'une soumise de province de Caroline Lamarche, avec qui j'ai été en contact, qui est une femme que j'ai trouvée extraordinaire. Il y a quelque chose de pas très joli dans l'histoire, dans le sens où c'est pas positif, ça débouche pas sur une histoire d'amour, on sent que c'est compliqué, que c'est torturé comme histoire, mais néanmoins, c'est expliqué d'une façon où on sent bien quand même ce qui se passe, on sent bien ce qui se joue dans les sentiments, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant.
Oui, je pense au roman d'Eva Delambre, qui tourne tous autour du BDSM et de la soumission féminine, mais avec à chaque fois un thème légèrement différent, que ce soit le masochisme, ou alors l'esclavage, ou alors la pluralité. Et dans ces romans, on se plonge vraiment dans la peau de la soumise. Et j'aime beaucoup parce qu'effectivement, elle va très loin dans la description des ressentis, des émotions aussi, et du pourquoi la soumise va si loin, pourquoi elle se donne si loin. Et en arrière-plan, il y a beaucoup d'amour, hein, une certaine forme d'amour immense. Et dans les romans d'Eva Delambre, les dominants, les maîtres, sont à la hauteur. Ça, c'est agréable. Ce ne sont pas des maîtres qui abusent ou qui vont négliger le don qu'il leur est fait. Enfin, ils peuvent être durs, exigeants, mais ils sont quand même à la hauteur de ce qu'on leur offre. Donc ça peut être une autre source de lecture aussi, si tu ne connais pas.
En fait, je l'ai contactée une fois, Eva Delambre, et puis on m'a parlé d'elle. Tu la connais? Tu l'as
déjà
rencontrée?
Oui, un petit peu. Oui, je la connais, oui.
Alors, on m'a expliqué que c'était une situation un petit peu particulière. Je le couperai peut-être au montage parce que j'ai pas envie de parler d'elle sans son consentement, mais grosso modo, on m'a expliqué qu'elle vivait ça, vivait une relation avec un maître, et que grosso modo, si elle écrivait, c'est en partie, parce qu'on peut difficilement écrire si on n'a pas envie d'écrire, mais en partie parce que c'est son maître qui lui demandait de sortir un livre par an.
Oui, elle l'a expliqué d'ailleurs devant un parterre d'auditeurs, donc je pense que c'est pas un secret.
D'accord,
donc,
c'est pas un
secret. Mais elle a quand même ce goût de l'écriture parce qu'elle a son premier livre, elle l'a écrit toute seule de mémoire. Et donc, elle a ce talent d'écriture, ce goût de l'écriture, mais c'est vrai que c'est devenu un jeu, entre guillemets, un défi entre son maître et elle d'écrire un livre par an. Donc, la façon dont elle a décrit ce défi, c'est que ça lui convenait, hein, c'est qu'elle aimait vraiment ça, et au contraire, ça lui permettait d'avancer et d'intégrer en fait, l'écriture dans sa soumission vis-à-vis de lui.
Oui, dans leur relation.
Dans leur relation, c'est complètement intégré dans leur relation.
Ouais. D'accord. Ouais. Ce qui fait que je crois qu'elle elle est pas du tout à côté pour moi, qui peut pas me déplacer dans toute la France, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir plus de contact avec elle parce qu'on m'a décrit quelqu'un d'intéressant, mais comme toi de toute façon, et effectivement vous êtes les deux personnes dont on m'a le plus parlé quand je suis arrivé, que je connaissais pas.
Je suis extrêmement flattée et surprise aussi, contente, mais
Surprise, tu devrais pas l'être tant que ça, j'ai envie de dire. Quand on a préparé l'émission, je te l'ai dit, moi j'ai débarqué sur ta page, je pense que c'est une page que tu as fait sur Facebook, 11 000 followers, c'est pas tout le monde, hein.
Ouais, mais il devait y en avoir 10 000 dormants, 10 500 qui roupillent.
Hein. Oui, mais je veux bien avoir des 10 500 dormants qui roupillent aussi. Au bout d'un moment, ils étaient quand même intéressés. Je veux dire, c'est pas rien sur Facebook aujourd'hui d'avoir 11 000 followers, je trouve. Hein. Donc,
alors, oui, mais
pas de fausse modestie, j'ai envie de dire.
Oui, il y en a qui me suivent pour mes écrits, mais il y en a aussi qui me suivent parce qu'ils ont vu que je participais à des soirées, donc qui espèrent peut-être m'accompagner une fois en soirée ou me rencontrer en soirée. Donc oui, il y a un petit peu de tout. Il n'y a pas uniquement des lecteurs, il y a aussi des gens, des soirées, voilà.
J'en doute pas, hein, je vois bien comment Rose est... Rose, mon épouse, est sollicitée sur Internet. Bon, dès qu'on a une femme, de toute façon, sur Internet, bon, les rapports ne sont pas les mêmes. Comme elle me dit, j'ai 30 invitations à accepter tous les jours ou pas.
Bon, j'en ai 1000 en attente, j'en fais rien. Mais les gens, ils envoient une invitation, mais ils ne mettent pas de petits mots de
présentation. Ah, bah non, non.
Tout ça. Aucun effort.
Alors que clairement. Ça me fait sourire, mais... Excuse-moi. Alors que clairement, en tant qu'homme, on n'a pas du tout ce problème-là. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas ce problème-là. Faut dire aussi que je ne mets pas de photos, mais Rose non plus, donc le souci n'est pas là, quoi, quelque part. Donc, on a pas mal parlé de ta façon d'écrire, que je trouvais intéressant. Moi, c'est vrai que le contexte de l'écriture m'intéresse beaucoup, me motive beaucoup. Je trouve ça intéressant de savoir pourquoi on écrit plus que qu'est-ce qu'on a écrit. Cela dit, est-ce que tu veux parler, et une question que je voulais te poser, c'est parmi ce que tu as écrit dans l'érotique, hein, dans ce qui est érotique, on va aborder le reste après, quelles sont les œuvres que tu préfères, celle avec lesquelles tu as le plus finalement de fit? On a toujours dans les écrits quelque chose que nous on préfère, même si ça ne correspond pas à ce qui a le mieux marché d'ailleurs.
Alors, je crois que dans tout ce que j'ai écrit, j'ai une tendresse particulière pour un roman que j'ai écrit avec Julie de Russy, un roman qui s'appelle « Le frisson de la cire sur ta peau » et qui se déroule au 19e siècle, dans un grand magasin. Alors, on s'est inspiré de Zola, au Bonheur des Dames, parce qu'on aime beaucoup Zola toutes les deux. Donc on a repris un peu ce contexte de grands magasins et de la mode, des froufrous, etc. Et puis donc du patron avec effectivement les vendeuses. Mais après, on a fait quelque chose de transgressif, on s'est vraiment éloigné de notre modèle. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience d'écrire à deux. Il y avait deux vendeuses, donc on a chacune incarné une vendeuse. Et on s'est changé les chapitres. On a écrit ça sur plusieurs mois d'affilée. Ça a été un réel plaisir, cette plongée dans le 19e siècle. Donc je dirais que c'est peut-être celui pour lequel j'ai plus de tendresse. Mais je les aime bien tous parce que immersion aussi, ça correspond à un moment de ma vie où j'avais moi-même un soumis de soirée. On était très proches. Et donc il m'a inspiré ce roman qui raconte l'attachement d'une dominatrice vis-à-vis de son soumis. Donc quelque chose de beaucoup plus extrême que ce que je pouvais vivre avec mon propre soumis. Mais c'est vrai que ça en est un peu l'inspiration et le souvenir aussi de cette époque. Tandis que le dernier que j'ai écrit, là je me suis plus amusée. Je me suis plus amusée avec plein de personnages et plein de situations différentes. Donc voilà. Et puis je me suis bien amusée aussi à écrire un recueil de nouvelles avec Juliane Dessay, qui s'appelle Coup tordu, où là on a interviewé des copines sur les mauvais plans des garçons, leur gaffe, leur coup fourré, leur manipulation, et on a fait un petit recueil de nouvelles pour s'amuser. Voilà,
il n'y a rien à dire sur ce sujet-là.
Il y avait plein de témoignages, on a un tome 2 en préparation. Non.
À mon avis, il y a de quoi écrire. Mais ceci dit, je ne sais pas si... ce serait une question à se poser. Pourrais-tu écrire l'inverse ?
L'inverse, c'est-à-dire ?
D'un point de vue masculin, les gaffes des filles, parce que ça peut... On apprend tous à un moment ou à un autre dans sa sexualité, en particulier jeune, évidemment, quand tu ne connais pas. Et est-ce que ce serait quelque chose d'aussi amusant à écrire ? Toi qui me disais que tu aimes bien écrire de différents points de vue.
Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, dans notre recueil de coups tordus, je crois qu'il y a deux, trois histoires qui concernent des filles, en fait.
D'accord.
Des filles qui n'ont pas été fiables, qui n'ont pas été honnêtes, qui ont fait aussi des coups fourrés aux garçons. Donc, bon, la majorité, c'était ces messieurs. Mais il y a quelques filles aussi qui n'étaient pas à la hauteur. Donc, oui, c'est tout à fait amusant d'écrire. Et tout le monde passe à la casserole, il n'y a pas de problème. Moi-même, n'étant pas exemplaire.
Bon, De toute façon, on découvre tous. Hein. Bon, c'est un sujet plus sérieux, mais moi, j'ai écrit un article sur l'éducation sexuelle parce que ça me tenait à cœur aussi. Dieu sait qu'on découvrirait, qu'on ferait peut-être moins de gaffe si on avait eu accès à une meilleure éducation sexuelle, en particulier pour les gens de notre génération. Alors, je ne sais pas quel âge tu as, mais moi, j'ai 50 ans. L'éducation sexuelle, c'était inexistant, mais j'ai l'impression que ce n'est pas beaucoup, beaucoup mieux aujourd'hui. Si on avait eu accès à mieux que ça, on aurait peut-être fait moins de gaffe et on aurait peut-être moins merdé, entre guillemets, avec nos relations et dans notre découverte de la sexualité. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses.
Alors, moi, j'ai bien eu des cours d'éducation sexuelle dans ma jeunesse, mais c'était essentiellement la pénétration, les organes génitaux, c'était des sciences nattes, quoi. C'était SVT. Ouais, hein.
Très clair.
Après, bon, il y avait la contraception, les MST, mais... Par contre, l'angle du consentement, l'angle des émotions, des sentiments, ça, c'était pas abordé. J'espère, hein, je pense que les choses sont en train de changer. J'espère, j'ai pas vraiment l'impression. Mais en revanche, il y a énormément de comptes Instagram qui sont faits par des jeunes filles, des jeunes femmes, et qui parlent de ces sujets. Et je pense que les jeunes s'y intéressent et apprennent aussi par ce biais-là, en fait. Hein, autant de supports que nous, on n'avait pas à l'époque.
Et j'aborde ce sujet parce que l'écriture, c'est aussi un moyen de le découvrir. On l'a dit au tout début, hein, on a découvert la sexualité, en particulier le BDSM, via des écrits, hein, Histoire d'eau, mais d'autres aussi, hein, qui me paraissent intéressants. Alors, comme on le disait tout à l'heure, tu n'as pas écrit que ça. Et en particulier, tu parlais de ce livre qui s'est passé au 19e, dans un grand magasin, c'est ça ? Rappelle-moi comment il s'appelle.
Le frisson de la cire sur ta peau.
D'accord. Donc il s'affichera à l'écran. Hein. Il ne s'agit pas que d'érotisme, là. Il y a un contexte un peu historique.
Alors c'est avant tout un livre érotique. Si, on est encore dans le domaine de l'érotisme. D'accord. Mais c'est vrai que c'est l'historique. On s'est documenté. On a relu Le Bonheur des Dames avant de l'écrire. On a revu des documentaires. On a essayé de se plonger dans ce Paris du 19e siècle en pleine mutation. Avec l'émergence des grands boulevards, des grands magasins. Donc autant de faire ce que se peut, hein, on n'est pas exemple d'erreur historique. Mais quand même, il y a une histoire, bien sûr, mais c'est avant tout une histoire érotique.
D'accord.
Alors entre hétérosexuels et homosexuels aussi. On a aimé écrire une histoire d'amour entre hommes aussi, donc dans une époque où ce n'est pas forcément évident, entre filles, et puis... donc voilà, un peu tous les genres. Ouais.
Tout est permis.
Voilà.
Alors ça, je l'ai mal présenté parce que quelque part, je ne savais pas. Mais il me semble que tu n'as pas écrit que ça. Tu me parlais de science-fiction notamment, non ? Ou de fantastique ?
Alors dans mes tiroirs, j'ai énormément de textes autour de la science-fiction et du fantastique. Enfin, plein d'histoires inachevées, des bribes, des passages, etc. Donc, et là, je suis en train de terminer un manuscrit fantastique. On change complètement de genre. J'aime énormément aussi le fantastique. Donc là, j'écris une histoire de fantôme, une romance plutôt, une histoire d'amour avec un fantôme. Et ça me plaît beaucoup de changer. Parfois, hein, il faut sortir de sa zone de confort. Mmh. Et je m'essaye un autre genre. Donc je croise les doigts. Hein. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je vous en donnerai des nouvelles.
Ouais.
Pour l'instant, je suis en train de le terminer. Ouais.
Ouais, c'est pas loin d'être achevé.
Pas loin d'être achevé. Après, le chemin est très long. Hein. Ouais. L'édition, c'est un long chemin. Tu connais aussi.
Alors, j'ai moins eu ce problème-là parce que moi, j'ai fait le choix d'être auto-édité. Donc là, pour le coup, on choisit la temporalité de la publication. Hein, on choisit un peu plus, quoi. Même si, effectivement, on est soumis au délai des correcteurs, de la bêta-lecture... Mais c'est vrai qu'après, on maîtrise. C'était vraiment un choix. Je voulais pouvoir apprendre un peu le monde du livre de cette façon-là.
Oui, puis c'est une grande liberté. Mais par contre, il faut être bon pour la mise en page, il faut être bon pour faire sa couverture. C'est ça demande pas mal de talent autre que la simple écriture.
Alors, j'avais envie de maîtriser un petit peu toutes les étapes,
oui.
Au moins de les apprendre pour pouvoir ensuite savoir. Je ne m'interdis pas de chercher un éditeur pour le livre de science-fiction. Mais j'avais envie d'apprendre toutes ces étapes-là, de les maîtriser un minimum. Ça correspond à ma sensibilité, à ma façon d'être, à mon caractère. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais envie de toucher, j'avais pas envie que d'écrire, parce que je peux pas écrire, à titre personnel, je peux pas passer 5 heures sur mon bureau à écrire. Mmh. J'ai besoin de faire autre chose entre-temps. Mmh. En général, j'écris par plage de 2 heures. En ce moment, je suis tellement débordé que j'écris à partir de 10 heures le soir. Tout le reste de la journée, je fais autre chose. Mais voilà, ça correspondait un petit peu à ça. Alors, pourquoi des histoires de science-fiction inachevées? Parce que d'après ce que tu me dis, il y en a plusieurs en plus.
Alors, j'aime énormément la science-fiction, les films, les séries, les livres. Je pense que pour moi, la science-fiction, c'est la suite logique. Bon, j'ai beaucoup aimé les contes de fées de l'enfance. Après les contes de fées, il y avait les contes régionaux, les contes des pays, puis la mythologie, la fantasy, le fantastique, et puis la science-fiction. On reste dans ce merveilleux, plein de magie, etc. C'est ça qui me plaît dans la science-fiction. Et pourquoi je ne vais pas au bout? Parce qu'en fait, j'aime bien... Quelqu'un m'a dit, une amie m'avait dit oui, que j'étais une amoureuse en écriture. J'adore les débuts des projets, ça foisonne, j'ai plein d'idées, je suis hyper enthousiaste, j'ai de l'énergie. Donc j'y vais, j'écris, j'abats des montagnes. Et puis, il y a une autre idée qui vient me tenter. Tiens, ça m'intéresse. Enfin, j'aime les débuts, j'aime l'énergie des débuts. Le coup de foudre. Donc effectivement, les histoires de science-fiction sont restées inachevées, à part une que j'ai mise sur Wattpad, mais un peu comme ça, en guise de test, quoi, parce que franchement, c'était pas terrible. Non, il n'y a que l'érotisme où je suis allée au bout du truc, en fait. Et là, cette histoire de fantôme.
D'accord. Ok. Mais tu t'interdis pas d'aller au bout d'une de ces histoires. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'en as pas envie, mais ça viendra peut-être. Le parcours d'écrivain, c'est long.
Ah oui, peut-être qu'un jour, j'irai au bout d'une histoire de science-fiction. Enfin, j'écris des nouvelles de science-fiction, mais c'est le grand roman. Et puis, bon, il y a des maîtres en la matière. Je me sens pas trop d'ajouter mon grain de sel. Je crois que je préfère être lectrice et spectatrice de films de science-fiction.
D'accord.
Et puis, bon, j'ai déjà une idée de futur roman érotique. Donc, quand j'aurai terminé mon histoire de fantôme, je vais revenir à mes premières amours, l'érotisme. Avec là, j'ai plutôt une idée de huis clos à trois, quelque chose de plus enfermant.
Plus intimiste.
Bien intimiste. À trois, il y a énormément de possibilités aussi, entre un dominant, une soumise et une switch. Donc voilà, pour l'instant, je pense qu'après, je commence à avoir des idées, mais j'essaie de me forcer à terminer les fantômes avant de vraiment me lancer sur ma nouvelle idée.
Je rebondis sur ce que tu me disais, un dominant, une soumise et une switch.
Oui.
D'accord. Parce qu'en général, chez les femmes, alors c'est un cliché, hein, j'en ai bien conscience, mais il vaut ce qu'il vaut, on s'attendrait plutôt à avoir une femme avec deux hommes.
Alors oui, il y a plein de possibilités. Oui, une femme avec deux hommes, c'est vrai que c'est bien aussi. Mais là, j'ai plutôt l'idée d'avoir un homme avec deux femmes.
Ok. On a bien avancé cette interview. Bon, j'avais envie de te poser la question. Au début, je l'avais mis dans le questionnaire si l'écriture était ta seule activité. Alors, comme tu ne veux pas forcément parler trop de ta vie privée, je vais peut-être oublier cette question.
Non, je peux dire... l'écriture n'est pas une activité... ce n'est pas un travail pour moi. J'écris pour le plaisir, donc je considère que ce n'est pas une activité professionnelle. J'ai envie que ça reste une envie, un désir d'écrire, que j'éprouve de la joie à écrire. Et je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à terminer mes romans. Je ne publie pas un roman par an comme d'autres, parce qu'il y a toute cette phase de correction qui m'est relativement pénible, parce que ça ressemble à du travail. Se relire, corriger, se remettre 100 fois à l'ouvrage, relire un roman qu'on connaît par cœur au bout d'un certain temps, tout cela en fait me lasse un peu. Donc j'ai envie que ça reste une écriture plaisir, donc sinon c'est pas mon activité principale.
Marissa Rachel me disait ça aussi. Elle me disait quand j'ai fini les livres, j'en peux plus, je veux plus les voir en peinture. Je les connais tellement que quelque part il y a une forme de lassitude qui ressemble à celle que tu viens de décrire.
Alors moi je suis pas lassée par mon histoire, où je suis contente d'aboutir, donc je suis enchantée d'arriver à la fin. On sent l'écurie quoi, donc je suis contente. Ce que j'aime pas trop, c'est ce travail de correction. On a des logiciels, hein, tu connais Antidote, qui référence toutes les fautes d'orthographe. Bon, là, ça va, je suis une élève studieuse, je vais corriger toutes mes fautes d'orthographe, mes coquilles, etc. Ensuite vient le moment où il faut améliorer son style, traquer les répétitions. Et là, je trouve que c'est extrêmement laborieux, parce qu'il faut trouver les bons synonymes, sans que cela soit artificiel, sans alourdir son style. Et donc, il y a certaines répétitions que je laisse, tant pis, parce que sinon, je perds en naturel. Et d'autres répétitions, j'essaye vraiment de trouver d'autres synonymes. Donc ce travail-là, il est un petit peu laborieux. Une fois que j'ai commencé, j'essaye d'abattre des montagnes et j'essaie de me laisser distraire, afin d'aboutir. Et là, je dirais qu'on est moins dans le plaisir quand même. Le plaisir, c'est d'avoir terminé.
D'accord. Bon, tu me disais que tu aimes la science-fiction, d'ailleurs, c'est un parallèle, mais quand je sortirai le mien, il faudra que je te...
Ah ouais, ouais, absolument, absolument. Je lirai avec plaisir.
Il faudra que je t'en parle. Donc, est-ce que tu peux nous donner, par curiosité, quelques chiffres? Parce que tu disais, toi, l'écriture, c'est pas forcément un métier, dans le sens où tu n'as pas envie de te sentir obligé de sortir un livre par an. Ce qui fait que... as-tu une idée du nombre de livres que tu as pu vendre? As-tu des idées de ce genre de choses?
Non, je suis désolée, je ne vais pas avoir de chiffres à te donner, parce qu'en plus on est au début d'année et je n'ai pas encore reçu les rééditions de comptes, etc.
D'accord. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une activité dont tu vis.
Ah non, ce n'est pas une activité lucrative, ça me donne un petit peu d'argent de poche avec les droits d'auteur et c'est très bien. Je crois que le Village des Soumises, je crois que finalement, il s'est assez bien vendu, je suis contente.
J'en ai pas mal entendu parler, en tout cas.
C'est vrai, ça je peux remercier mon éditeur Tabou, puis la Musardine aussi, qui l'a souvent mis en avant et tout. Et donc, je crois que le Village des Soumises a bien marché, mais je ne préfère pas, pour l'instant, donner de chiffres précis.
D'accord, ouais. Okay. Mais comme la plupart des auteurs, surtout en particulier spécialisés comme ça, ce n'est pas une activité dont tu tires des revenus qui te permettent d'en vivre en arrêtant ce que tu fais par ailleurs.
Non, je ne pourrais pas vivre de cette activité. Mais... Je pense qu'il y a assez peu d'auteurs qui peuvent vivre de l'écriture.
Très peu.
Soit il y a les auteurs très connus, Musso, etc., les auteurs très connus, et... Soit toutes les autrices qui en vivent, elles se livrent à côté à des activités de coaching, elles donnent des formations, formations sur l'écriture d'un roman, elles font du coaching, elles font de la bêta lecture, et donc elles se font payer pour ces activités-là, et c'est comme ça qu'elles peuvent compléter un peu leurs revenus et leurs droits d'auteur. Mais je crois que non, les seuls droits d'auteur, ça suffirait pas.
Non, ouais.
Je crois qu'il faudrait sortir quasiment un livre tous les 2-3 mois pour espérer en vivre. Quoi.
Puis en particulier dans un domaine qui est quand même restreint en termes de quantité de lecteurs potentiels, qui est l'érotisme.
Ah oui, c'est une niche, il y a très peu de gens qui autant la romance explose, la romance, énormément de gens adorent la romance, l'histoire d'amour, mais c'est vrai que l'érotisme, on est sur une niche. Oui, c'est assez très peu distribué dans d'autres librairies.
Oui, clairement. Ok. Moi, en général, comme je pose à toutes les personnes, la question que je pose à toutes les personnes que j'interview, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que tu veux mettre en avant? Est-ce qu'il y a quelque chose, une association, un thème particulier que tu as envie d'aborder?
Non, je vois pas trop. Quand j'avais vu ton guide d'interview, je m'étais dit que j'allais parler du plaisir de rencontrer d'autres autrices et d'écrire ensemble, etc. Mais comme j'en ai parlé à un autre moment, non, j'ai pas spécialement de points à ajouter.
Ok. Bon, je vais faire juste les remerciements. Alors, d'abord, je te remercie, toi, d'avoir accepté que je t'interviewe. Je veux remercier Julianne Dessay, qui m'a aidé à te contacter, Marissa Rachel en particulier. Je voudrais remercier également ton éditeur, M. Play, de chez Tabou Éditions, qui m'a aidé à organiser cette interview, qui m'a donné le contact du bar Le 153, où on est aujourd'hui. Je voulais remercier toutes ces personnes-là parce que c'est pas facile d'organiser une interview parfois, surtout quand on n'est pas sur place. Donc je te remercie encore une fois d'avoir accepté mon invitation.
Enfin, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un exercice pas facile mais qui m'a beaucoup plu au final. Merci.
Bon.
Vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stevealdeman.com pour y trouver les liens en question, d'autres articles ainsi que les romans que Rose et moi avons écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous invite à vous informer sur notre double roman, ne serait-ce que parce qu'à ma connaissance, il n'existe pas d'autres histoires d'amour qui vous permettront d'être au cœur des émotions de chacune des deux âmes sœurs. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain numéro.